La Torah de vérité. La Torah que Hachem nous a octroyée il y a 3300 ans est une Torah qualifiée de Torah Emet. Et nous allons voir en quoi la Torah est différente de toutes les autres chochmot, toutes les autres sagesses, les autres croyances. La particularité de la Torah est encore une fois une Torah de vérité. Alors pour cela, nous allons analyser une histoire qui est mentionnée dans le livre des rois au sujet du Naaman, le général de l'armée du roi d'Assyrie, qui va rencontrer le prophète Élisha. Et suite à cette rencontre, Naaman, qui était lépreux, va guérir et va se convertir. Lors d'une incursion en territoire d'Israël, les Assyriens ramènent une captive, une jeune fille, qui est mise au service de l'épouse de Naaman. Cette jeune servante, constatant la maladie de son nouveau maître, dit à son épouse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui vit à Samarie, sûrement qu'il le délivrerait de sa lèpre. » Naaman, apprenant cela, annonça à son roi, le roi d'Assyrie, qu'il voulait aller voir le prophète pour qu'il le guérisse. Le roi d'Assyrie envoya immédiatement une missive au roi d'Israël, lui demandant de faire en sorte que son serviteur soit libéré de sa lèpre. Naaman se mit en route en portant de grandes richesses, des présents, etc. pour sa guérison. À la lecture du message, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je un dieu qui fait mourir et ressusciter pour qu'il me demande de délivrer un homme de sa lèpre ? Il me cherche querelle. C'est encore une fois la guerre qui va en sortir. » Élisha, ayant appris les événements, fit dire au roi qu'il vienne me trouver. Il saura qu'il y a des prophètes en Israël. « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ?» Naaman se dirigea donc vers la demeure du prophète et s'y présenta. Élisée, qui ne sortit même pas à sa rencontre, lui fit dire « Va te plonger cette fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra nette. » Naaman, en entendant cela, se mit en colère et s'en alla en disant « Certes, mais t'ai-je dit, il va sortir, s'arrêter, invoquer le nom de son Dieu l'Éternel. Puis il aurait passé sa main sur la partie malade et guéri le lépreux. Me tremper dans le Jourdain, mais toutes les rivières de Damas valent bien mieux que toutes les eaux d'Israël. Sur ce, il prend le chemin du retour et s'en va. Sur le chemin du retour, les serviteurs lui disent, tu ne perds rien de te tremper, il passe par le Jourdain. Et là, Naaman va se tremper dans le Jourdain, suivant le conseil de ses serviteurs, accomplissant ainsi la parole de l'homme de l'Éternel. Quelle ne fut sa surprise de voir son mal disparaître ? Il constata avec stupeur que sa chair redevint comme la peau d'un enfant. Il s'en retourna chez le prophète avec toute sa suite. Il se présenta devant lui et dit, « Ah, certes, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est le Dieu d'Israël. Et maintenant, accepte de grâce un présent de ton serviteur. » Élisée répond, « Au nom de Dieu que j'ai toujours servi, je n'accepterai point aucun présent. » Naaman le presse d'accepter, mais il refuse. Et il le renvoya et lui dit, « Va en paix. » Gehazi, le serviteur d'Élisée, de Elisha, se dit, « Mon maître a refusé d'accepter de la main de cet Assyrien ce qu'il a apporté. Mais Hachem, je vais courir après lui et j'en aurai quelque chose. » Il poursuivit Naaman, le rattrapa et lui dit, « À l'instant, arrive chez moi deux jeunes prophètes de la montagne d'Éphraïm. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Naaman lui donna deux talents et deux vêtements de rechange, qu'il alla mettre en sécurité dans la maison, puis s'en retourna chez son maître. Quand Élisée le vit, il lui demanda, « D'où viens-tu, Gehazi ?» Il lui répondit, « Ton serviteur n'est allé nulle part, j'étais là, Élisée lui répondit, « Mon esprit non plus n'a pas été absent quand ce personnage a tourné bride pour aller à ta rencontre. Était-ce le moment de prendre l'argent aux vêtements ? Que la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance à jamais. » La question qui se pose, la première question qui se pose à nous est pourquoi Élisha refuse les cadeaux et les présents de la main de Naaman. Rachid explique que les richesses de Naaman étaient souillées par l'idolâtrie. Comment Gehazi, qui est le serviteur de l'homme de Dieu, qui connaît sa sainteté et les autres vertus du prophète, a-t-il l'audace d'agir contre sa volonté ? N'est-il pas conscient des risques qu'il prend ? Il est étonnant que lorsque Naaman se présente à la porte du prophète, celui-ci ne se donne même pas la peine de sortir pour le rencontrer. Il lui envoie ses instructions par un intermédiaire. Pourquoi Élisée demande à Naaman de se tremper dans le Jourdain, alors que ses eaux n'ont aucune qualité et aucun pouvoir de guérison ? Qui est vraiment ce Naaman ? Pourquoi prend-il pour argent comptant les paroles d'une petite servante ? Pour quelle raison Hachem a frappé Naaman de la lèpre ? L'erreur de Gehazi est-elle tellement grave ? Mérite-t-il un tel châtiment ? Élisée ne pourrait-il pas lui pardonner ? Pour bien comprendre tout le sujet, nous devons définir la personnalité du prophète Élisha et celle de son serviteur Gehazi. À ce sujet, nous allons regarder ce que dit le Rambam au 7e chapitre des fondamentaux de la Torah. Une des bases. Au 7e chapitre des fondamentaux de la Torah, le Rambam écrit. Une des bases de la religion est de savoir que le Dieu Tout-Puissant transmet la prophétie aux hommes. Cette prophétie ne parvient qu'à un grand sage qui possède la maîtrise du savoir, fort et vaillant de par ses qualités humaines. Jamais son penchant le domine, bien au contraire, c'est lui qui domine et maîtrise son penchant pour toute chose de ce monde. Sa connaissance est vaste, sa compréhension est solide, qui tient sur des piliers inébranlables. Un homme ayant toutes ses qualités, n'ayant aucune infirmité, quand il pénètre dans le Pardès, le verger de la connaissance, et qu'il persévère dans ses voies profondes et éloignées des contingences de ce monde, il comprend les choses et les domine par une connaissance établie solidement. Se sanctifiant de manière continuelle, en gravissant les degrés, s'écartant du commun des individus et de leur voix, de leurs préoccupations qui ne concernent essentiellement que les problèmes de ce monde. Il s'exerce et apprend à n'avoir aucune des pensées qui concernent les préoccupations matérielles de ce monde. Il concentre, canalise et dirige ses pensées vers la connaissance du trône et s'y attache ainsi qu'à la compréhension et à la connaissance du haut, des êtres saints et de pureté. Il médite avec persévérance l'intelligence de l'ensemble de la création et en saisit la grandeur du Créateur. Dès qu'il parvient à ces degrés de suite, l'Esprit divin l'enveloppe et l'habite. Son esprit est alors attaché aux êtres supérieurs, aux anges. Il sait alors qu'il est devenu un homme différent de ce qu'il était auparavant. Il se distingue des autres savants, etc., etc. Cette description extraordinaire que fait le Rambam des qualités que doivent acquérir les prétendants à la prophétie est en fait la métamorphose d'un homme du commun en un être d'un autre monde, un être d'exception. Pour y arriver, le prophète doit se détacher totalement de toutes les entraves qui le relient à la matérialité de ce monde. Cela commence par la maîtrise des pensées qu'il doit nettoyer complètement pour y parvenir. Résider, il fait résider un seul pôle d'intérêt qui est la connaissance de Dieu au plus haut des niveaux. Cet homme atteint l'extase totale. Il n'a plus de besoins physiques, de nos besoins matériels. Il coupe toutes les attaches avec ce monde et passe dans un autre. Celui de la spiritualité accomplie. Alors, nous disons qu'Élisée est l'homme de Dieu. Dans le livre des Rois, le texte raconte l'élection du prophète Élisha et son initiation à la prophétie par Éliahou Hanavi. Le prophète Éliahou est dans l'obligation de fuir et de se cacher. Le roi Ahav et sa femme Isabelle cherchent à se venger de lui et à le tuer. Après l'épisode du Mont Carmel, où Eliyahu Hanavi a battu les prêtres des faux, des idoles, les Baal, du Baal, et des faux prophètes à la solde du roi, Eliyahu demande à Hachem de le retirer de ce monde. Hachem lui demande alors d'aller chercher Elisha et de l'initier à la prophétie. Puisque Dieu va accéder à sa demande, il quittera ce monde de manière extraordinaire. Eliyahu se rend chez Elisha, qui laboure son champ avec ses serviteurs. Il lui fait signe et Elisha comprend immédiatement qu'il doit le suivre. Elisha quitta les bœufs, courut après Eliyahu et lui dit « Je voudrais embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Il lui dit « Va, retourne. » En revenant, Elisha prit une des paires de bœufs qu'il sacrifia. Il fit cuire la chair avec le bois de l'attelage, distribua la viande aux gens qui l'accompagnaient. Il se mit en devoir de suivre Eliyahu et devint son serviteur. Nous voyons la démarche d'Elisha qui demande l'autorisation à ses parents de les quitter, ce qui sous-entend que la séparation sera définitive et totale. C'est le sens du mot « embrasser ». Puis, il fait un festin pour exprimer sa joie de pénétrer à présent dans un monde, dans un autre monde, le monde du prophète, et d'être dès cet instant à son service. Cette joie ne doit plus le quitter. Elle est indispensable pour que l'Esprit divin le saisisse. Nos maîtres disent que ce n'est ni dans la tristesse, ni dans la paresse, ni dans la légèreté, ni dans la dérision, ni dans les conversations futiles que vient résider la présence de Dieu, mais dans la joie de mitzvah, que la présence, c'est dans la joie de mitzvah que la présence de Dieu réside, comme il est dit. Et maintenant, amenez-moi vers Ata, avioli menagen, veya kenagen amnagen, vati alav ruach Hashem. Et dès que le musicien joua, la main de l'Éternel se posa sur lui. Nos maîtres disent dans le Midrash, Tana de Bilyahu, qu'il abandonna tous ses biens, qu'il rendit efker, et déversa du sel dans les sillons qu'il venait de labourer, pour bien souligner le renoncement de la matérialité, qui marque la coupure et le rejet de ces valeurs qui sont données dorénavant méprisables. Il est à noter que le renoncement des valeurs matérielles est étroitement lié à la joie qui doit habiter le prophète de manière continuelle. La possession des biens n'est jamais un acquis suffisant. Le souci qu'ils engendrent et l'insatisfaction qui en découle interdisent à la joie de s'exprimer avec plénitude. Il n'y a pas d'homme qui quitte ce monde en ayant satisfait la moitié de ses ambitions matérielles, nous disent les maîtres. Tous les détails décrits dans ce texte sont la progression d'Elisha dans son détachement total de la matérialité. Ils sont les premiers échelons qu'il gravit dans son ascension vers les sommets. À partir de là, va commencer pour lui une vie de désintéressement et d'indifférence de tout ce qui est, aux yeux des autres, important. La sainteté. Au chapitre 4 du livre des rois, le livre 2 des rois, il est rapporté qu'Elisha avait pris l'habitude de séjourner chez une femme de renommée. Elle dit à son épouse, « Serge, je sais que cet homme qui nous visite est un homme de Dieu. Il est saint. Préparons-lui une chambre et plaçons-y pour son usage un lit, mita, une table, shulhan, qui sait, un siège et un flambeau, une menorah. Lorsqu'il viendra, il pourra s'y retirer. » La Gemara demande, « Comment cette femme savait-elle qu'Elisha était un homme saint ?» Alors la Gemara rapporte une mahloquette en Rav Shmuel. Lundi, elle le savait parce qu'elle n'avait jamais vu une mouche passer sur sa table. L'autre dit parce qu'elle étendait régulièrement un drap blanc de lin sur son lit et elle n'y vit jamais aucune souillure séminale. Vagmara brachot dafyud. Le Yerushalmi dans Sanhedrin 52b a une troisième explication. La sainteté d'un homme se mesure à la qualité spirituelle de sa table qui est comparée par les maîtres à l'autel. Le misère sur lequel on offrait des sacrifices à Hachem. Et bien évidemment, à la sainteté de sa couche. Les personnages qui n'ont jamais de perte séminale sont qualifiés de saints dans les textes et la tradition. La mouche est le symbole du Etzerara, comme dit la Gemara dans Brachot, Samech Aleph Amoud Aleph. Rav dit, le mauvais penchant ressemble à une mouche et réside entre les deux portes du cœur. Shmuel le compare au blé. Comme il est dit, le péché est tapis à la porte. Le terme employé ici pour le mot péché, c'est hatat, ressemble à la même consonance que le mot hita, que le mot blé. Le blé est lié à la connaissance, au da'at, et ainsi à la faute originelle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'acte sexuel est lui-même qualifié ainsi, comme dit la Torah. Adam, vayeda Adam et Hava ishto. Adam connut sa femme, le da'at. Il sent bien que ce soit Rav qui parle de la sainteté de la table, puisqu'il compare le etzerara à la mouche. Et que ce soit Shmuel qui traite de la sainteté de la couche, en faisant allusion au da'at, en parlant du blé. Les deux notions étant liées, souvent la Torah utilise des termes, de pain ou de teint pour faire allusion aux relations intimes entre les époux. Cependant, le Zohar, soulevant la même question, ne se suffit pas de ces deux réponses, qui lui semblent incomplètes. Selon la première réponse, de nombreuses personnes n'ont pas de pollution séminale. Il n'y a rien ici de particulier à la sainteté de Elisha. Et selon la seconde réponse, pourquoi, dit-elle, je le sais, ce qui souligne qu'elle seule pouvait le savoir, ce qui exclut la table, car d'autres personnes pouvaient être présentes lors des repas du prophète. Elles auraient aussi constaté qu'aucune mouche ne s'approchait de sa table. C'est pour cette raison que le Zohar souligne que le drap de lin qu'elle étendait sur sa couche était toujours porteur d'une odeur agréable. À son lever, son lit était tel que si on n'avait pas utilisé, et même encore plus, il avait une meilleure odeur après le sommeil d'Elisha qu'avant. Le Zohar explique que cela est pendant que l'homme dort, que pendant le sommeil, Elisha, l'âme de Elisha, retournait au Gan Eden, et qu'à son retour, dans le corps du Navi, elle embaumait son corps et sa couche. Voir le Zohar dans Parashat Béchala. À l'opposé de la grandeur d'Elisha, nous trouvons son serviteur Gehazi et toutes ses faiblesses. Cette grande dame qui lui offrait l'hospitalité avait dit à son mari, l'homme de Dieu est un homme saint. Lui est saint. Nos maîtres soulignent que cette précision superflue vient exclure au serviteur. Elle avait vu qu'il était loin de ressembler à son maître. Rabbi Yosef Bahanina dit que cette femme s'était présentée chez le prophète à l'improviste. Gehazi voulut la repousser. Il le fit en lui saisissant la splendeur de sa beauté que Rashi traduit par sa poitrine. Gehazi ou la forfaiture. Le Talmud Yerushalmi Sanhedrin, chapitre 10, dit « Gehazi est un homme fort dans la Torah, c'est-à-dire un grand savant, mais il était atteint de trois maux. Un œil mauvais, Ein Ra. Il ne supportait pas le bien que pouvaient posséder les autres, qu'il pouvait acquérir. Il se comportait avec légèreté et familiarité envers les femmes, se permettant certains écarts, comme nous l'avons vu. Et enfin, il ne croyait pas à Triatamitim, à la résurrection des morts. Un mauvais œil, comment? Ein Ra. Quand Elisha était à la maison d'études et enseignait la Torah, Gehazi s'asseyait à l'extérieur. Le voyant à l'extérieur, ceux qui désiraient écouter le cours s'en retournaient, se disant que si lui était dehors, cela signifie qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur. De par son attitude, il empêcha les disciples de profiter pleinement des enseignements du maître, ce qui le rendait indispensable. Ils avaient besoin de lui pour comprendre ce que le maître disait ou savoir ce qui a été à enseigner. Tous étaient dans l'obligation de s'adresser à lui pour connaître la Torah d'Elisha. Il était incontournable. D'autre part, ce comportement dévoilait le mépris et le peu de considération qu'il avait pour les enseignements du maître. Après que Gehazi fut chassé, les élèves dirent à Elisha, « Le lieu où nous trouvons est réduit, nous y sommes à l'étroit. » Nous apprenons de là que de nombreux élèves rejoignirent le maître après son départ. Gehazi avait peu de considération pour la Torah et pour ceux qui s'y consacrent. Peu lui importait l'honneur et le respect de ses valeurs, sa diffusion. Il en avait trahi l'esprit. Elle n'était, à ses yeux, que le moyen de parvenir à ses fins. Voyons maintenant qui était Naaman. La vision erronée ou l'obscurité. À la fin du livre des rois, le livre 1 des rois, il est rapporté que Yehoshaphat, le roi de Judée, rendit visite à Ahav, le roi d'Israël. Lors de cette rencontre, Ahav demanda à Yehoshaphat de s'allier à lui pour combattre le roi d'Assyrie, afin de récupérer Ramoth en Gilad. Yehoshaphat répondit, nous ne faisons qu'un, toi et moi, ton peuple et mon peuple. Mais il lui demande de consulter l'oracle du Seigneur, les prophètes. Ahav réunit ses prophètes au nombre d'environ 400, qui répondirent d'une seule voix. Va, l'Éternel livrera la ville au pouvoir du roi. Mais Josaphat insista, car il savait que la parole de Dieu ne pouvait parvenir de manière identique à deux prophètes. Il dit, il n'y a pas ici encore un prophète de l'Éternel, un vrai prophète que nous puissions interroger. Ahab lui dit, oui, il y a bien un homme, Michaïou, fils de Yimla, mais je le hais, car il ne me prédit jamais rien de bon, toujours du mal. Michaïou avait répondu, Bishem Hashem, je ne dirai que ce que Hashem me dira. Il dit, va et tu triompheras, l'Éternel livrera la ville au pouvoir du roi. J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau sans pasteur. Et l'Éternel disait, plus de chefs pour les diriger, qu'ils retournent chacun chez lui en paix. Le roi d'Israël dit alors à Josaphat, je ne t'avais-je pas prévenu que cet homme ne me prédit que le mal et jamais le bien? Le prophète dit, prédit ici la mort de Ahab. Mais aucun mal n'arrivera au peuple, chacun retournera chez lui en paix. Cette description de la bataille est étonnante. Il est évident que tout ceci n'est qu'un moyen pour que Ahab soit puni de ce qu'il a fait à Naboth. Le roi d'Israël dit à Josaphat, moi je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt ton costume royal. Et il alla en guerre déguisé. Or le roi de Syrie avait donné l'ordre suivant à ses commandements de cavalerie. Ne dirigez vos coups ni contre les petits ni contre les grands, mais visez uniquement le roi d'Israël, Ahab, uniquement. Il avait des espions qui avaient entendu les prophéties de Michaïou. Il savait donc qu'il était inutile de combattre. La seule possibilité qu'il avait de s'en sortir était d'atteindre Ahab. Les Assyriens essayèrent de le trouver pour l'abattre, mais ne le trouvèrent pas puisqu'il était déguisé. Mais un soldat tira de l'arc au hasard, sans le vouloir, sa flèche partit. Il atteignit le roi d'Israël au niveau de là où la cuirasse était ouverte. Au coucher du soleil, la proclamation suivante passa dans les rangs, que chacun retourne dans sa ville et dans son pays. On ramena Ahab mort à Samarie, où il fut enseveli. Ce soldat qui avait, sans le voir, tiré une flèche et atteignit Ahab était Naaman. À la suite de quoi, il fut nommé chef de l'armée. Grâce à lui, les Assyriens furent sauvés de la défaite. Mais après avoir été nommé, Naaman était atteint de la lèpre. Il comprend alors que cette plaie est une punition pour avoir causé la mort du roi d'Israël. Dans sa conception des choses, il pense qu'un sort ou qu'un sortilège ou une sorcellerie quelconque avait été jetée sur celui qui a tué le roi d'Israël. La question que l'on doit se poser est pourquoi Naaman est frappé de la lèpre en particulier et pas par une autre plaie. Nos maîtres enseignent qu'une des causes de la lèpre est l'orgueil et la vanité. Cette maladie diminue l'individu, son corps est atteint, sa prestance en est rabaissée. Rabbi Shmuel Agnado, dans son Keli Akar sur les rois, dit « L'attitude de suffisance de Naaman était telle qu'il n'avait aucune révérence envers son maître, le roi d'Assyrie. Il était imbu de son aide et de sa position. Du fait que son roi et son armée étaient sauvés par son intervention, lui donna à croire qu'il était un être d'exception, alors que tout cela avait été fortuit et indépendant de sa volonté. Quand Naaman entend dire qu'en Israël, il y a un homme de religion qui est capable de le guérir, il pense que cet homme possède des pouvoirs magiques, que comme dans toutes les croyances, il y a des prêtres qui détiennent des sorts, pouvoirs, sortilèges ou autres envoûtements. Du reste, il le dit lui-même, certes, mais t'ai-je dit, il va sortir, s'arrêter, invoquer le nom de Dieu. Puis il aurait passé sa main sur la partie malade, et pour me guérir, toutes les rivières de Damas valent bien mieux que les eaux d'Israël. Donc il pensait bien que la Torah et le prophète n'avaient rien de différent aux autres croyances, comme si il y avait dans ce monde un partage des puissances que le Dieu ou les dieux avaient répartis entre les peuples, et que chacun d'entre eux en détenait une partie. Cette conception des choses est d'ailleurs très répandu de nos jours, même parmi les membres de notre communauté. Quand Naaman arrive, va arriver à la constatation qu'il n'y a qu'un seul Dieu qu'en Israël, il conclut en ces termes, « Certes, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre si ce n'est le Dieu d'Israël. » Comment arrivera-t-il à cela? Pourquoi soudainement il prend conscience de cette vérité établie avec certitude? Maintenant, nous allons voir le jaillissement de la lumière. Il était dans l'obscurité, tout d'un coup, il va voir la lumière. Pour parvenir à cela, il faut absolument avoir un regard objectif sur les événements. se sortir du carcan et du cadre habituel de pensée, du conformisme de la société, de la culture ambiante, ce que nous appelons de nos jours le politiquement correct. Pour atteindre la vérité, il est nécessaire de s'affranchir du système dans lequel nous évoluons. Le système transforme l'individu en esclave, que celui-ci en soit à l'origine ou à la tête, ou au plus bas de l'échelle, il ne permet plus une vision objective et détachée. La critique et l'autonomie de pensée, en un mot, la recherche et la découverte de la vérité. La remise en question perpétuelle est incontournable pour atteindre et parvenir à la vérité. Non pas celle établie par les hommes, mais la vraie vérité, celle de HaKadosh Baruch Hu. C'est ce que dit le Hassid Lutzato Zichron Levacha dans son introduction sur la voie des justes. C'est le sens à donner aux paroles de Rambam quand il dit que le prétendant à la prophétie doit se détacher du commun des hommes et de leurs préoccupations. Le Hassid Zichron Levacha le dit aussi au chapitre 26 sur la sainteté. Il dit « Les causes destructrices de la vertu, la sainteté, sont l'ignorance des connaissances véritables et l'abus dans la fréquentation de la société. L'aspect matériel se renforcera tandis que son âme restera prisonnière, sans espoir de se libérer. Si par contre il se sépare de la société en s'isolant, il pourra alors se préparer à recevoir l'inspiration de cette sainteté, car là où il voudra aller, le ciel le conduira. » Il est recommandé de lire attentivement ce chapitre exceptionnel de ce livre magnifique. Les connaissances véritables citées ici sont mentionnées plus haut dans ce même chapitre. Il dit, tu constateras certainement que l'acquisition de cette vertu nécessite une grande ascèse et une profonde réflexion sur la manière dont Dieu dirige le monde et le contrôle. Ashgacha Eliyona. Sur les secrets de la création et enfin sur la connaissance de son infinie grandeur et de sa louange. Quand Haman fait sa déclaration de foi, il atteint le premier stade de la compréhension de la vérité. Mais celle-ci n'est pas encore parfaite. Il comprend qu'Israël et sa croyance sont différents des autres, que le Dieu d'Israël est le seul sur cette terre, mais il n'en détient pas encore la raison profonde. Cela va lui être suggéré par Élisée. Haman a compris, dans un premier temps, que le comportement du prophète qui ne daigne même pas venir à sa rencontre, qui ne le traite pas selon son rang, il comprend que ce ne sont pas les eaux du Jourdain qui le guérissent. Elle ne possède aucune qualité particulière. Tout cela ne sert en fait qu'à permettre à Naaman d'avoir de l'objectivité. Pour ce faire, il doit se rabaisser au plus bas, éliminer son orgueil et sa suffisance, se remplir d'humilité. Cet objectif est celui du prophète. Deuxièmement, le refus du prophète de prendre des richesses que lui propose Naaman, et sa détermination dans ce refus mène Naaman à comprendre que la Torah est une vérité absolue, sans aucune comparaison chas v'shalom avec les autres croyances. Elle est d'une autre dimension, elle appartient à un autre monde. Toutefois, comment Naaman peut-il montrer à Élisée sa reconnaissance? Que doit-il faire pour se sentir obligé, pour ne pas être ingrat? Il lui propose des richesses que les communs des hommes valorisent. « Je suis prêt à te donner tout ce qui possède la valeur en ce monde, » dit Naaman à Élisée. « Non pas pour payer le service rendu, il n'y a pas assez d'or sur terre pour payer la vie que Élisée rend à Naaman. » Cela, il le sait bien, mais il cherche surtout à lui montrer sa gratitude, sa reconnaissance. Mais tout cet or n'intéresse pas du tout le prophète, comme nous l'avons déjà souligné plus haut. Ceci est totalement détaché de la matérialité, il est indifférent à tout ça. Cette prise de conscience par Naaman l'amène à véritablement atteindre et à appréhender ce qui est véritablement la Torah, sa dimension réelle. Elle transforme l'homme et le sanctifie. Si le prophète n'a aucune réaction devant la richesse, qu'il n'en veut pas, qu'il a cela en mépris, il vit dans un autre monde. Naaman déclare alors, c'est à cela que je veux ressembler, c'est cela la Torah de vérité. Lors d'une récente rencontre entre le président Poutine et le Rishon Letzion, le grand rabbin d'Israël, Rabbi Tzak Yosef Shlita, il raconte que le président reconnaît devant le rabbin la particularité du monde, du peuple juif, son histoire, sa destinée exceptionnelle. Et qu'a-t-il fait? Pourtant, cette conversation ne pousse pas le président à adopter la Torah. Bien que ses paroles soient sincères, elles ne sont qu'une constatation, une vie de l'extérieur. Il y manque la compréhension profonde et la raison de cela. Il n'a pas eu encore la chance de fréquenter un maître de la qualité d'Élisée, qui se conduit, qui vit la sainteté de la Torah. La sainteté, c'est cette différence qui est le lot de Naaman. La Gemara Yerushalmi Shabbat, à la page 43b, raconte que Rabbi Hanan avait très mal aux dents. Il se rendit chez une guérisseuse qui avait un secret d'une potion pour soigner ce mal. Et Rabbi Hanan lui dit, si j'ai mal pendant Shabbat, comment je vais faire? Alors donne-moi. Elle lui dit, tu viendras. Il dit, mais Shabbat, je peux pas venir. Alors elle lui dit, elle le fait promettre de ne jamais dévoiler le secret de cette potion. Et elle lui donne. Pourquoi ne veut-elle pas qu'il le dévoile? Parce qu'elle a peur qu'il va lui faire une concurrence. Il va ouvrir un cabinet de consultation en face d'elle, il va lui prendre la clientèle. Mais que fait Rabbi Hanan? Le lendemain, c'était Shabbat, lors de sa dracha, il dit, si vous avez mal aux dents, voilà comment il faut faire. Il donne la composition de cette formule à tous. Quand le lendemain, on entendit cela, cette femme, la guérisseuse, entendit cela, que fit-elle? Dans la Gemara, il y a deux avis. Certains disent qu'elle se suicida, et d'autres disent qu'elle se convertit. Le Korban Haeda, le Mfaresh sur le Yerushalmi, explique que si nous disons qu'elle s'est convertie, cela signifie que cette femme prend conscience du désintéressement total de Rabbi Hanan. C'est ce que nous définissons comme étant la Torah de vérité. Selon l'autre avis, en prenant conscience de la qualité particulière, exceptionnelle de Rabbi Hanan, de son détachement total de la matérialité, de son désintéressement, elle est déçue de son choix de vie, pensant qu'elle n'a pas accès à cette vérité, elle met un terme à une vie de mensonge. Gehazi va trahir Elisha. La faute de Gehazi est une erreur fatale dans la compréhension de l'action du prophète. Elle est identique à la faute commise par Lot, le neveu d'Avraham. Comme nous l'avons dit, l'action du prophète est au niveau de la tefila. C'est Hachem qui guérit Naaman. Il n'y a pas alors lieu de recevoir quelque salaire ou récompense ou même de reconnaissance pour Elisha. Il ne le mérite pas. Ce n'est pas lui qui a fait la guérison. C'est Hachem. Lui, il a juste prié. Comment pourrais-je recevoir un paiement pour quelque chose que Hachem lui-même a accompli? Prendre un salaire, cela reviendrait à diminuer la chose. Plus que cela, ça lui donnait une dimension physique d'ordre naturel. Élisée dit à Gehazi, je ne suis ni médecin, ni sorcier, ni docteur, je ne sais pas tout cela. Si tu te sers de l'argent de Naaman, tu réduis le miracle en lui attribuant une valeur de ce monde. Tu crois que Naaman a été guéri en ayant pris rendez-vous chez un spécialiste, un médecin de la peau. C'est la raison pour laquelle Gehazi sera frappé de la même lèpre. Élisée ne sait pas guérir naturellement selon les règles et les lois de ce monde. Lot, le neveu d'Abraham, faisait brouter ses troupeaux sur les terres appartenant aux habitants du pays, comme dit le verset. À cette époque, les Cananéens étaient sur la terre. Malgré les remontrances des bergers d'Abraham, Lot prouva que selon l'Halakha, la terre lui appartient déjà. Il dit, Dieu a donné le pays à mon oncle Abraham, je suis son seul héritier, et la terre m'appartient donc. Abraham n'hésite pas un instant, il lui dit, séparons-nous, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit que le lieu le plus fertile, le plus développé, le plus riche, la région de Sodome, et décida de s'y installer. Cependant, le fait que les mœurs et les comportements des habitants de ces villes étaient détestables ne le gêna point. On peut s'étonner qu'Avram, le père de la bonté, celui qui rapproche de Dieu tous les idolâtres, qui se donne la peine de faire l'hospitalité aux Bédouins dans le désert, ne cherche même pas à obtenir son propre neveu. Il aurait pu, dans un premier temps, lui faire des remontrances et le rappeler à l'ordre. Pourquoi de suite la séparation? De l'autre côté, on pourrait s'étonner que Lot choisisse un lieu de débauche pour résider. La réponse à toutes ces questions est très simple. Abraham met Lot à l'épreuve. C'est à Lot de demander pardon, d'avoir offensé par ses actions la grandeur de son nom, qui est la loi de Dieu. Mais il ne dit rien, il n'essaye même pas de le convaincre. On dirait qu'il n'attendait que cela pour dévoiler sa véritable nature, l'opposé, l'anti-Abraham. La ressemblance avec Gehazi est frappante. Tous les deux détournent la Torah à leur profit. Gehazi, sous couvert que les jeunes prophètes affamés en haillons sont arrivés chez Elisha, trouve un prétexte pour se servir au nom du prophète. Comme si, d'après la Lara, cela était une mitzvah pour nourrir les élèves de la yeshiva. Alors que dans les faits, c'est lui qui se sert. L'autre aussi, sous le couvert de pilpoul de halakha, démontre que le vol est autorisé. C'est cela qu'Abraham, comme Elisha, chasse de leur entourage. Ils n'ont aucune part dans la Torah. Leur attitude est détestable. Toutefois, Elisha ira jusqu'à Damas pour essayer de ramener Gehazi et qu'il fasse repentance. Celui-ci refusera et dira au prophète, tu m'as appris que celui qui faute et fait fauter les autres et les portes du repentir et du pardon se ferment devant lui. Remarque importante, l'Agma dans Sota, même Zayin, dit qu'il ne faut pas repousser totalement le fauteur. Elle met Gehazi sur le même niveau que l'homme de Nazareth, l'autre qui est appelé l'étranger. Tous deux ont été chassés par leur maître. Ils ont tous deux de nombreux traits de ressemblance. Nous devons y être vigilants, y prendre garde. Ressembler à Gehazi reviendrait à ressembler à l'étranger. Aher, le Anochi. La leçon, la question qui se pose ici est en quoi il fit fauter les autres. Sûrement par l'influence qu'il eut sur les autres disciples. Étant dans une position importante, tous le prenaient comme un personnage de référence. De plus, nous avons dit plus haut qu'il se tenait à l'extérieur de la maison d'études dans l'intention de dissuader les élèves à pénétrer pour entendre les paroles du maître. Les sages mettent cette attitude de Gehazi en opposition avec celle de Aaron. Il est dit à plusieurs reprises dans la Torah, « Parlez d'Abberu el Hadad béni Israël, Hachem s'adressant à Moshe et à Aaron. » Les maîtres demandent pourquoi est-il employé le pluriel. Parlait-il les deux? Voilà qu'il est aussi dit, « Tu parleras aux enfants d'Israël. » En s'adressant à Moshe, la Mechilta explique, quand Moshe enseigna l'ensemble du peuple, Aaron était présent. Il montrait de l'intérêt à chacune des paroles qui sortaient de la bouche de Moshe. Il tendait l'oreille attentivement, avec crainte et soumission. Il donnait l'exemple à tous, qu'il fallait boire chacune des paroles de Moshe avec avidité. Il encourageait les autres à suivre son exemple. Cela lui est compté comme s'il entendait ses paroles de la bouche même de l'Éternel. C'est cette attitude qui est comptée à Aaron comme si lui-même avait prononcé ses enseignements. Quelle leçon ! Une leçon d'humilité et d'amour de la Torah. C'est cela que signifie l'honorer. À ce sujet, il est dit, « Baruch ha-gever asher yakim et divrei ha-Torah azot. » Béni soit celui qui érige les paroles de la Torah. Soutenir, encourager ceux qui essaient de diffuser les enseignements de nos maîtres. Cela mérite cette bénédiction. Mais il est dit aussi dans le même texte, l'inverse, pour celui qui a l'occasion de soutenir et s'en abstient. C'est cela qui arriva à Gehazi. Il semble que nombreuses sont les ressemblances qu'il y a entre nos attitudes et celles de Gehazi. La question qui se pose à présent, est-il possible de ne pas être un disciple de Gehazi? Comment pourrait-on y arriver? Le secret de la réussite. Rabbi Haim Vital Zicholo Livracha, dans sa fameuse introduction au Sha'ar HaAkdamot, développe cette notion. La vraie crainte de l'Éternel, le vrai amour de la Torah, le vrai service d'Hachem ne peut être atteint que par la vraie connaissance de la Torah, celle du secret, du Sod. C'est uniquement en s'y adonnant que l'homme parvient à la réelle connaissance de Dieu. Tous ceux qui sont frileux, qui sont réticents à s'y consacrer, restent en dehors de la vérité. Ils ne peuvent l'atteindre, comme dit le Zohar Bereshit à la page 25, qui compare ceux qui construisent des institutions de Torah pour se faire un nom à la génération de la tour de Babel, qui eux aussi désiraient se faire un nom. Voir aussi le Tikkun HaZohar, page 73b, Tikkun 30. Évidemment, cette attitude exige une sainteté des actes et des pensées, de la modestie, de l'humilité, un amour profond de la Torah, une ambition sincère de servir Hachem, de lui donner satisfaction sans rien attendre en retour. Alors peut-être Hachem nous ouvrira les portes du savoir, il nous illuminera de sa lumière et tout cela se réalisera. Comme il est dit dans le verset, « Toutes les nations de la terre verront que le nom de l'Éternel est sur toi et elles te craindront. » Naaman a eu le mérite de voir cela à travers la grandeur du prophète Elisha. Il circule depuis quelques années un film où pendant quelques secondes on peut voir la lumière du monde faisant quelques pas. Rabbin chez l'Israël, le Havetz Haim Alav Shalom, arrivant à la grande réunion d'Agudat Israël dans les années 20. Je conseille fortement à tous de regarder ce film à de nombreuses reprises pour se faire une petite idée de la sainteté de la Torah. Elle jaillit du Rav et nous éclaire un peu de ce qu'a vu Naaman en rencontrant Elisha. Que le nom d'Hachem soit glorifié. Nous avons la chance de voir un petit film de quelques secondes et voir un homme qui est comparable à un malach. Maran, Ahavetz Chaim. Il convient de rappeler ici cette phrase du lettre du Rav de Brisk qu'il envoya à Rav Aaron Kotler, Zichrono Livracha. Il dit les mots suivants. Ve'ahemet nitan le'amer. Qui gambe bahanenu anu, shoreret be'arbed de'a pesula ve'chose ve'etzu, shebishvil yeshivot akol kedai ve'akol mutar, ve'gam mitzvah. Akan leshono. La vérité mérite d'être dite, nous dit le Rav. Même dans notre camp, le camp de la Torah, est répandue une vision fausse et mensongère que pour les yeshivot, pour la Torah, tout est permis. Et que ça vaut la peine de faire. Et c'est ainsi et c'est parfois aussi considéré comme étant une mitzvah. Les paroles du Rav de Brisquerouve résonnent comme une prophétie. Prenons garde à ne pas être des Lot ou des Gehazi. Rappelons que Rashi explique que l'argent de Naaman était entaché par l'idolâtrie. Et pour cette raison, Elisha refusa de le recevoir. Les paroles de Rashi méritent un approfondissement. À ce sujet, il est bon de rappeler l'épisode de Yosef avec le maître des chansons. Après avoir interprété les rêves du chef des chansons, Yosef lui demande qu'il se souvienne de lui quand il sera libéré et de le rappeler auprès de Pharaon. Mais le verset dit « Le chef des chansons ne se souvient pas de Yosef » et il l'oublia. Et ce fut au bout de 2 ans que Pharaon fit ses rêves qui amenèrent à la libération de Yosef. Nos maîtres disent que Yosef est coupable de 2 années supplémentaires pour avoir demandé à cet homme 2 choses, de se souvenir de lui et de lui mentionner devant Pharaon. Le verset dit « Heureux l'homme qui met sa confiance en Hachem et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux, ceux qui ne sont pas fidèles. » S'il est reproché à Yosef d'avoir essayé de hâter sa sortie de prison en demandant l'aide de cet homme, que lui-même vient d'encourager et de rétablir dans ses fonctions, les rêves se réalisant selon l'interprétation qu'on leur donne. Qu'aurait Dieu lui faire? C'est un moyen, il s'attache. C'est comme si quelqu'un est tombé à la mer et on lui jette une bouée. Rien est la réponse. Le maître et chanson ne se trouve là que pour en faire sortir Yosef. En lui traduisant le rêve tel que le fait Yosef, il le rétablit dans ses fonctions. De lui-même, il le fera sortir. Quand Yosef le lui demande, il lui confère un pouvoir et une force qu'il n'avait pas jusqu'alors. Dans le verset, il est dit « Heureux l'homme qui ne se tourne pas vers ceux qui sont orgueilleux et infidèles. » Il est précisé les orgueilleux et les infidèles. De ces gens-là, il ne faut surtout pas recevoir de l'aide. Il s'agit des égoïstes qui ne conçoivent pas de faire du bien aux autres s'ils n'en retirent pas eux-mêmes un avantage. Le chef est chanson. Ne donne à Pharaon le nom de Yosef que pour en obtenir avantages et privilèges. Alors, les 2 années de prison supplémentaires que subit Yosef ne sont pas une sanction, mais un bienfait. Le juste est ainsi préservé du venin contenu dans le bien, entre guillemets, que les orgueilleux, en l'occurrence les chansons, pourraient lui faire. Le maître et chanson est un être égoïste, orgueilleux et arrogant, plein de suffisance, qui ne mérite pas de faire du bien au juste. Nos maîtres disent, quand les méchants font du bien au juste, ils en souffrent et ils en sont affligés. C'est pour cela qu'il est dit, le chef des échansons ne se souvient pas de Yosef et il l'oublia. De sorte que Yosef ne reçoive pas de l'échanson. Nous voyons ici que la qualité de Elisha, la grandeur de Elisha, c'est de ne pas faire du bien. Il va guérir Naaman sans en tirer aucun profit, juste pour la gloire de Dieu. Enseigner la Torah, transmettre aux autres, faire des brachot, sans attendre rien en retour. Et surtout, que l'essentiel du retour ne doit pas être pour soi. En l'occurrence ici, que celui qui donne, ne donne pas parce que il veut, il paye un salaire. Il lui donne un salaire ou il paye une reconnaissance. S'il le fait, il n'a qu'à le faire, Corban Hachem. Et ici, nous avons la véritable définition des hommes grands, des hommes desquels nous devons nous inspirer. et en analysant profondément, avec maîtrise et persévérance les textes, ce texte, nous allons voir, nous prenons conscience de la véritable dimension des maîtres d'Israël qui sont totalement détachés de la matérialité, comme nous dit Rambam. Que le maître en Torah doit être à l'identique du prophète, comme il est dit. Tu n'apprendras la Torah que d'un maître qui ressemble à un ange. Qui sifte kohen ishmerudat. C'est celui qui garde sa bouche, qui est dans la sainteté totale. C'est de lui qu'il faut apprendre la Torah. Car ki malach Hashem sevakot hu. Car il est un ange de Dieu. Il est comparable à un ange. Détaché totalement, complètement de la matérialité. Alors prenons garde. Prenons garde de ne pas être des disciples de Gehazi, mais plutôt allons à l'opposé et soyons des disciples, des élèves attachés à l'image et à la leçon que nous donne Elisha Hanavi. Il attend que Hachem nous illumine de ces lumières contenues dans la Torah, de sorte que nous sachions faire des bons choix dans la vie et que grâce à ses maîtres, grâce aux enseignements qu'il nous transmet, la lumière se remplit dans le monde. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.